Bonsoir, vous êtes dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser rentrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Pourri, j'écoute les infos en tétant ma gitane. Des guerres et des famines, des morts, des maladies. J'aime bien mieux rêver au joli sein de Jeanne. Je sens d'ici l'arôme du petit expresso, qu'en arrivant toute nue sous sa chemise persane, elle m'offrira avec ses petits pains tout chauds le mien durci déjà, rien qu'en pensant à Jeanne. La campagne s'éveille, on voit des tas d'oiseaux. Au-dessus d'un mulot, déjà la buse plane. Le bâton du berger rassemble son troupeau. Le mien sera bientôt entre les doigts de Jeanne. De la poste centrale s'échappent des facteurs. Jardin du Luxembourg en attelle les ânes. Le métro du matin charrie ses voyageurs. Moi j'ai qu'une station, c'est dans les bras de Jeanne. Pour la 28e fois, on viole un cessez-le-feu. Un président s'envole sur son aéroplane. Au bureau du chôme-du, il y a déjà la queue. À l'heure où le PDG fume son premier Havane. J'ai garé mon gros cul parking des coquelicots, où y a rien que du béton et des bagnoles en panne. Des gus pleins de cambouis mettent le nez sous le capot. Moi je vais enfouir le mien dans la toison de Jeanne. Je grimpe l'escalier, mon palpitant bat fort. Il flotte autour du lit des senteurs océanes. Je laisse tomber le café pour une bouée de secours que mes bras font autour de la croupe de Jeanne. En bas de l'HLM, on se balade en short. Nos voisins finissent de briquer leur caravane. Ils se tirent en vacances pour changer de décor à l'heure où retentit le cri d'amour de Jeanne.
De François Fillon. Villon, pardon. De François Villon. Quand me regarde toute nue et je me vois si très changée, pauvre, sèche, maigre, menue, je suis presque tout enragée. Quand devenu ce front poli, cheveux blonds, ses sourcils voûtis, grand entre-œil, ce regard de joli, dont prenez les plus subtils, ce beau nez droit, grand ni petit, ces petites jointes oreilles, menton fourchu, clair vif, tractis, et ces belles lèvres vermeilles, ces jantes épaules menues, ces bras longs et ces mains tractis, petit étain, hanches charnues, élevées, propres, fectices, à tenir amoureuse, lisse, ses larges reins, ce sadinet, assis sur grosse ferme cuisse, dedans son petit jardinet. Mamelle, quoi, toute retraite, telle les hanches que les têtes du sadinet. Fille, quand des cuisses ne sont plus, mais des cuissères, grivelées comme saucisses. De Clément Marot. Tétin refait plus blanc qu'un œuf, tétin de satin tout neuf, tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose, tétin dur, non pas tétin, voir, mais petite boule d'ivoire au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. Tétin donc un petit bout rouge, tétin qui jamais ne se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour baler. Tétin gauche, tétin mignon, toujours loin de son compagnon, tétin qui porte témoignage du demeurant du personnage. Quand on te voit, il vient à main, une envie de dans les mains, de te tâter, de te tenir. Mais il faut bien contenir, d'en approcher bon gré ma vie, car il viendrait à une autre envie. Ô tétin, ni grand ni petit, tétin mûr, tétin d'appétit, tétin qui nuit à jour et criait « Mariez-moi plutôt, mariez-moi !» Tétin qui t'enfle et repousse, tétin Georgias de deux bons pouces, à bon droit heureux on dira celui qui de lait t'emplira, faisant d'un tétin de pucelle, tétin de femme entière et belle. De Voltaire. Je cherche un petit bois touffu que vous portez à mainte, qui couvre, s'il n'est pas tondu, un gentil labyrinthe. Tous les mois on voit quelques fleurs colorer le rivage. Laissez-moi verser quelques pleurs dans ce joli bocage. Allez, monsieur, portez vos pleurs sur un autre rivage. Vous pourriez bien gâter les fleurs de mon joli bocage. Car si vous pleurez tout de bon, des pleurs comme les vôtres pourraient bien, dans une autre saison, m'en faire verser d'autres. Quoi, vous craignez l'événement de l'amoureux mystère? Vous ne savez donc pas comment on agit à Cythère? L'amant, modérant sa raison dans cette aimable guerre, sait bien arroser le gazon sans imbiber la terre. Je voudrais bien, mon cher amant, hasarder pour vous plaire, mais dans ce fortuné moment, on ne se connaît guère. L'amour, maîtrisant vos désirs, vous ne seriez plus maître de retrancher de nos plaisirs ce qui vous donna l'être. Le Guy de Maupassant. Je ne l'entendais pas, tandis que je le regardais. Par sa robe entr'ouverte, au loin, je me perdais, devinant les dessous et brûlé d'ardeur folle. Elle se débattait, mais je trouvais ses lèvres. Ce fut un baiser long comme une éternité qui tendit nos deux corps dans l'immobilité. Elle se renversa, râlant sous ma caresse. Sa poitrine oppressée et dure de tendresse haletait fortement avec de longs sanglots. Sa joue était brûlante et ses yeux demi-clos. Et nos bouches et nos sens, nos soupirs se mêlèrent. Puis, dans la nuit tranquille où la campagne dort, un cri d'amour monta si terrible et si fort que des oiseaux dans l'ombre effarés s'envolèrent. Ainsi que deux forçats rivés au même fer, un lien nous tenait, l'affinité des chairs. De Paul Éluard. Toute tiède, encore du linge annulé, tu fermes les yeux et tu bouges, comme bouge un champ qui naît, vaguement mais de partout. Odorante et savoureuse, tu dépasses sans te perdre les frontières de ton corps, tu as enjambé le temps, te voici femme nouvelle, révélée à l'infini. Enfin d'André Breton. Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet, d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frottée, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable. Ma femme, aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. Ma femme, aux tempes d'ardoises de toit, de serre et de buées aux vitres. Ma femme, aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace. Ma femme, aux poignets d'allumettes. Ma femme, aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé. Ma femme, aux aisselles de mare et de fèves, de nuit de la Saint-Jean. De troène et de nid de scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange de blé et de moulin. Ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle sureau, ma femme aux pieds d'initiales, aux pieds des trousseaux de clés, aux pieds de calfa qui boivent, ma femme aux coups d'orge imperlés, ma femme à la gorge de Val d'Or. Que rendez-vous dans le lit même du torrent au sein de nuit? Ma femme au sein de taupinières marines, ma femme au sein de creusets de rubis, au sein de spectres de la rose sous la rosée, ma femme au ventre de dépliements d'éventail, les jours au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseaux qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierres roulées et de craie mouillée, et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire, ma femme aux hanches de nacelles, aux hanches de lustre et de peine de flèches, et de tiges et de plumes de pan blanc, de balance insensible, ma femme aux fesses de grès et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de placé et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroir, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux du niveau d'eau, du niveau d'air, de terre et de feu.
Je baisais quand j'avais 20 ans, dans tous les ports, dans toutes les villes, de Bornéo jusqu'à l'Orient, dehors, dedans, à domicile, je baisais inlassablement. J'étais marin, toujours content de naviguer fort à l'aise, de tirer sur le cabestan, jamais contrarié du gros temps, pourvu qu'en arrivant je baise. Je ne fréquentais les bordels que par pure délicatesse, car je plaisais aux demoiselles, mais il faut penser à toutes celles qui pour manger n'ont que leurs fesses. J'en ai connu une bien gentille, une belle coquine qui besognait. Elle m'enveloppait dans ses chevilles, entre ses lèvres et ses poignets, on se rendait bien la monnaie. C'était une saine brunette, or la mignonne profita, que j'avais un chat dans la gorge pour butiner mon sucre d'orge, le diabète ne l'inquiétait pas. La garcelette était perverse, je l'encourageais en tout cas, car ses pratiques étaient diverses et la belle était folle de joie quand sa menotte avait 6 doigts. Elle survolait toute ma couche, son rose petit con charmant venait se poser sur ma bouche, on aurait dit un oiseau mouche ou un papillon insouciant. Et je bandais en soulevant le drap mouillé de fusées fraîches, changeant d'hôtel et de caresse, et en traversant ma jeunesse, au gré des filles, au gré du vent. Ainsi parlait un Marseillais, un vieux marin de la Joliette, qui attirait encore les jupons, car nombreuses étaient les fillettes qui lui tiraient sur le pompon. Il dit: j'ai le cœur plein de gaieté, bien que je ne baise plus guère, à 80 balais peu cher, je me dis putain bonne mère, que j'ai bien fait d'en profiter. À 80 balais peu cher, je me dis putain bonne mère, que j'ai bien fait d'en profiter.
Et si la mère, avec son eau salée, n'était en fin de compte que l'enfant des larmes versées par les femmes et les hommes depuis le début de l'éternité? Et si le sable fin n'était en réalité que le fruit des rochers érodés par le mouvement des larmes des humains désœuvrés? Et si le vent n'était que le souffle conjugué de millions d'êtres humains qui, pour communiquer, déplaceraient la masse d'air en tous sens et par-delà les mers? Et si nos émotions, par hasard, se fédéraient pour souffler sur le monde un vent d'humanité qui ferait que partout où les hommes seraient, sans comprendre pourquoi, ils se prendraient d'aimer. Et si tous les enfants, par la mer asséchée, le monde parcourait, plus de larmes ne couleraient, plus de vent ne soufflerait, les hommes s'aimeraient d'une franche humanité et pour l'éternité. Et si, tous ces enfants, sur une terre désarmée, entonnaient tous en cœur un hymne à la beauté, d'une paix tant cherchée, d'une paix retrouvée. Et si.
For me, Argentina, practice. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Les rescapés, ils sont là, assis sur la digue, les yeux et les pieds dans le vide. Ils semblent regarder la mer et son incessant mouvement. Leur détresse les a ramenés sur cette plage maternité où, justement, leur amour était né. Leur cœur avait eu les premiers émois, leur corps les premiers frissons. Ils sont là, ils n'ont plus de mots. Ils n'ont plus l'énergie à communiquer, tellement leur désespoir a creusé entre eux un gouffre de différence. Ce qui, hier encore, était une richesse, est devenu le mur au heurts, symbolisant le déficit de leur capital amour. Les yeux rougis traduisent leur désarroi. Brusquement, ils sont sortis de leur torpeur par les cris stridents d'un enfant qui, à deux minutes, coursent les mouettes en toute innocence. Sa joie est pleine, son insouciance est évidente, sa folie juvénile est communicative. Alors, mu par un reliquat d'énergie, le couple s'approche de l'eau en silence. Chacun se déshabille et, nu, les anciens amants s'avancent lentement dans les flots vivifiants. La mer, de ses bras, de sa houle, les accueille. Sans se dire un seul mot, leur insupportable douleur les a conduits au même endroit. Très vite, ils n'ont plus pied. Maintenant, ils nagent vers le large sans objet ou alors d'un objet commun. Instinctif, inavouable. Ils s'épuisent et s'enivrent. Cernés par les flots, ils savent à présent tous deux qu'ils ont franchi la ligne de non-retour. Mais cependant, ils nagent de concert, s'éloignant de plus en plus du rivage. Dorénavant, l'unique recours, s'il en est un, c'est eux-mêmes. Elle frémit et pousse un petit cri d'appel. Aussitôt, il se retourne et la voit sombrer. Dans un ultime effort, en deux brasses, il nage jusqu'à elle et réussit à lui saisir la main. Main qu'elle serre sans force car déjà les flots l'ont affaiblie. Puis c'est lui qui maintenant défaillit et solidaire d'elle se laisse submerger sans opposition. Il reste suspendu à ses lèvres un mot, un au revoir, comme un dernier baiser. Une main puissante le sort de l'eau. L'extrait du liquide salé et le hisse dans une barque. La même main la hisse à son tour, car dans leur action commune, leur dérive, leur naufrage, ils ne l'avaient pas lâché. Le puzzle de leur amour finissant s'était reconstitué dans un ultime élan. C'est un modeste pêcheur qui les avait aperçus, quelques instants avant leur noyade, et qui s'était empressé, à grands coups de rame, de venir les secourir. Ils sont nus et tremblants, recroquevillés, à même l'esquif. À ce moment, le tableau que le trio forme est émouvant. Il ne manque à cet instant que les peintres romantiques comme Théodore Géricault ou Léon l'Ermite pour en saisir toute l'émotion et toute la palette des tons. Le marin respire profondément. Il reprend progressivement son souffle.
Les rescapés râlent, crachent, tous, et leur corps grelottant s'agite sporadiquement. Cependant, rien n'est incongru. Le soleil, à sa manière, participe de ses rayons en colorisant et en réchauffant la scène. Aussi, à peine restitué à ses forces, le marin propose par geste une veste de cirée au nageur, puis quitte son propre sweat tout chaud qu'il enfile sur le corps tremblotant de la nageuse. L'eau, à sa façon, s'y oppose plus ou moins, et sans gêne le marin aide le passage des seins qui palpitent et se cache aussitôt. Presque décente, la nageuse adresse un sourire timide à son sauveur. Lui, plein d'attention et de compassion, reste sobre dans l'échange. Il n'a fait que son devoir, pense-t-il. Le réflexe qu'aurait eu n'importe quel humain, la main secourable. Et pour ne pas s'attarder, il reprend le cours de sa pêche en relevant casiers et filets. Nos deux rescapés échangent quelques regards, fixent le travail du matelot, apprécient en temps réel ces nouvelles minutes de vie, ce sursis qui ressemble à un petit paradis. En effet, sortis de leur impasse commune, il semble qu'ils savent à nouveau voir seuls ce que leur aveuglement commun substituait à leur vue. Ils apprécient pleinement ces instants dans leur simplicité, leur naturel, leur réalité, alors que, tout à l'heure encore, piégés dans leurs propres sentiments, ils étaient accablés, incapables de surmonter leur présent, incapables de vivre, tout simplement. Voilà que la vie, après qu'ils aient failli la perdre, leur donne une grande et belle leçon. Elle leur donne une nouvelle chance. Discrètement, il lui prend la main, comme on ramasserait une pépite. Elle répond à son geste par son plus beau sourire. Il devine l'autre. Déjà, ils se font des confidences silencieuses. Mieux que personne, ils savent que l'instant est unique, le présent un cadeau, l'avenir une promesse.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you. didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Monsieur, monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Tout en courant, je me rappelle l'annonce télévisuelle et surtout le slogan incisif « L'ennemi public numéro un » qui résonne en moi. Cet ennemi public, c'est moi. Résonne également dans ma tête, prête à exploser, ce commentaire percutant du journaliste. L'homme est armé et dangereux, ce qui ajoute de la pression. Et sous-tend à lui seul la tension nerveuse de mes poursuivants. En passant devant une maison dont les volets n'ont pas été fermés pour la nuit, je jette un rapide coup d'œil dans une vitre qui, sans ménagement, me renvoie l'image d'un fugitif. Pourtant, c'est bien moi, l'homme des infos, l'incarnation vivante du portrait robot. À l'évidence, il ne reste pas grand-chose de ma toilette matinale. Mes cheveux sont en bataille, ma barbe est hirsute, je suis sale. J'ai des taches de gras plus ou moins noires un peu partout sur le visage et sur les vêtements. De plus, je sens passablement mauvais, sans compter les contusions multiples et les bleus visibles sur mon visage. Pas clochard, mais presque. Très vite, il faut que je me trouve un endroit discret. Je me parle à voix haute, dans un parc public, à l'abri des regards, derrière un bosquet, pourquoi pas. À peine 100 mètres plus loin, c'est bon. J'ai trouvé un lieu isolé. Je m'assois alors sur un banc. Une chance. Il est plus ou moins dissimulé par des buissons. J'y suis un peu tranquille pour reprendre ma respiration et réfléchir. Aussitôt assis, je me dis que pour bien faire, il faudrait que je retourne chez moi. Une bonne douche et des vêtements propres me feraient le plus grand bien. Et hop, en deux coups de cuillère à peau, il n'y paraîtrait plus. Cette solution me semble la bonne. Je me suis un peu rasséréné. Une fois de plus, et puis... plus de nouvelles de mes poursuivants. Il semblerait que la police se soit définitivement éloignée. Pour m'en assurer, je sors doucement de ma cachette, croyant naïvement pouvoir fureter dans les quartiers en vue de récupérer mon véhicule, demeuré jusqu'alors à deux pas du bistrot. Mais je comprends rapidement que c'est une erreur. Il y a dans toute la ville une effervescence humaine et plus particulièrement une présence policière aux alentours de mon master. Je rebrousse discrètement chemin et me ravise quant à l'option que je dois prendre. Je crois alors que voler une voiture serait le plus simple. Sans hâte, je m'approche d'un parking et je teste une à une les portières côté chauffeur d'une bonne dizaine de véhicules. Le tout sans grand succès. Il faut dire que c'est la première fois de ma vie que je suis contraint à ça et je manque cruellement d'expérience. J'ai fait de nombreux stages professionnels dans ma vie, mais... j'ai vécu des formations dans différents domaines, mais à cet endroit, c'est foutu. Je suis sec. Alors que je teste une ultime voiture, quelqu'un vient chercher son propre véhicule, certainement pour aller au boulot. Je l'aborde et en deux phrases, je lui explique ma panne déguisée et le besoin impérieux de retourner chez moi. Il me toise rapidement et accepte d'être mon chauffeur. Il me précise qu'il connaît bien mon village, car ses beaux-parents y demeurent. Alors que nous roulons tranquillement, s'installe tout de suite une conversation assez urbaine. Nous sortons de la ville sans encombre, ce qui, plus ou moins, me surprend, mais aussi m'arrange, car je ne sais pas comment j'aurais réagi en cas d'interpellation policière. C'est quand même étrange. Plusieurs policiers ont vu notre voiture, mais n'ont fait que saluer de loin, presque amicalement. Ça m'a paru en décalage avec ma situation. Encore une incohérence matinale. Puis, au fil de la route, les questions de mon bienfaiteur deviennent de plus en plus précises. Travail, famille, loisirs, tout y passe. Je le trouve tant soit peu inquisiteur. Il finit même par réellement m'inquiéter, alors qu'une alarme vient de se déclencher en moi. Je me tourne vers lui, et à ce moment-là, je remarque son uniforme. Je ne suis pas un fugitif professionnel tout à l'heure dans le parking. J'étais tellement content de trouver un chauffeur que je n'avais pas remarqué. C'est un policier. Aussitôt, un vent de panique me traverse. Alors que nous roulons à vive allure, je détache ma ceinture. J'ouvre spontanément la portière et hélico, je me jette hors du véhicule. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, mon chauffeur de taxi improvisé semble n'avoir pas eu le temps de ralentir. Je souris. J'ai dû lui foutre une de ses frousses. Puis je me dis, voilà une cascade digne de Bebel. Suite à ça, un rapide bilan me révèle quelques contusions nouvelles, mais rien de vraiment grave. Ma roulade à peine interrompue, je lève la tête et là, je remarque que je suis assis à côté de mon master. Et enfin, pour je ne sais quelle raison, la portière du chauffeur est ouverte. Je me hisse avec difficulté, tout en ménageant mon corps plus ou moins meurtri et douloureux. Puis, sans trop de réfléchir, je démarre. À haute voix, je me fais la réflexion. Ça fait bien d'être un peu chez soi. C'est réellement ce que je ressens en roulant et en entendant le ronron régulier et apaisant du moteur. Encore une fois, je parle à haute voix. Cette fois, je retourne à la maison. Et puis, me revient en mémoire le type en panne. Enfin, mon collègue de travail avec sa voiture en panne, sa roue crevée. Trop bizarre, il n'était plus là. S'il m'avait vu tomber, il serait venu m'aider, bien sûr. C'est un bon pote, encore plus bizarre. Les images des situations vécues depuis ce matin se bousculent dans ma tête. Cette cascade d'événements survenus depuis ce matin m'étourdit un peu. Alors que je roule lentement, inconsciemment, je fais un écart et la roue avant droite du master tape une bordure, ce qui aussitôt déclenche un taux d'adrénaline qui me réveille, ou du moins me redonne la pleine conscience et m'oblige à être attentif à la conduite. Monsieur, monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main.
Via, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Flavia, ce vendredi après-midi, alors qu'elle terminait sa dernière journée, une nouvelle est tombée, tel un couperet. Elle est appelée au bureau de la directrice qui lui annonce que Tom est dans le coma et que son pronostic vital est engagé. L'enfant est au plus mal. À peine confuse, la directrice lui dit que, depuis le début de la semaine, on ne sait pour quelle raison, l'enfant conduit dans sa nouvelle institution a donné des signes de dépérissement, telle une fleur sans soleil et sans eau. Puis le phénomène s'est brutalement accéléré le jeudi, avec une première alerte qui s'est soldée par une crise s'apparentant à de l'épilepsie, suivie aussitôt d'une perte brutale de connaissance. Cependant, à l'heure du coucher, le jeudi soir, tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais ce matin, en allant le réveiller, le surveillant de nuit l'a trouvé dans un sommeil profond, avant que le pédopsychiatre ne diagnostique un sérieux coma. Malgré les soins intensifs, son état de santé ne s'améliore pas, voire il se dégrade de manière alarmante. Aussitôt, Flavia pense à E.T. l'extraterrestre, privé de ses frères et de ses soins et de ses besoins affectifs. Pour elle, Tom se trouvait dans le même état. Elle n'écoutait déjà plus les condoléances de la directrice, l'esprit en ébullition. Elle savait d'ores et déjà ce qu'elle allait faire. L'enfant avait été placé sous assistance respiratoire dans la crainte d'une évolution négative. Son père Dan fut rapidement prévenu. Il resta à son chevet tout au long de la journée, lui tenant la main, bouleversé. Il pleurait doucement. Vers 15h, il eut une inspiration. Il quitta alors rapidement l'hôpital vers une destination inconnue du personnel hospitalier. Déterminé. Mu par une idée fixe, il s'en alla sans attendre. Lui aussi, de son côté, savait dorénavant ce qu'il devait faire. En effet, Dan, bouleversé par l'état de Tom, avait accédé à l'affectif de l'enfant et avait compris les raisons de sa réaction désespérée et de son dépérissement. Convaincu de sa prémonition, il se pressait, afin de ramener Flavia auprès de l'enfant, ce trésor qu'elle chérissait autant que lui. Voilà ce que Dan se disait. Comprenant l'urgence, il n'avait plus qu'une obsession, revenir vite avec Flavia, cette nouvelle maman que l'enfant chérissait, avec la mère dans laquelle l'enfant avait placé son cœur et une grande partie de ses émotions, avec celle qui avait, ces derniers mois, insufflé un sens à sa vie. Justement, Dan trouva Flavia qui quittait prématurément son travail, bouleversée elle aussi par l'annonce de la situation. Ils n'eurent pas besoin de se parler. Leurs yeux rougis révélaient autant d'aveux, autant de craintes, autant de souhaits. Pendant le trajet, elle posa sa main gauche sur l'avant-bras de Dan. Cette liaison physique, bien que banale, apporta un réconfort mutuel aux deux êtres bouleversés. Encore affecté par le décès de sa femme, Dan ne pourrait survivre si l'enfant aussi devait être emporté. Sentir près de lui cette femme qui s'était prise d'affection pour Tom et qui s'était tant investie sentimentalement fut réellement ressenti comme une bouée, un secours, un réconfort. Elle était devenue en si peu de temps un réel soutien. Leur arrivée au service des urgences fut remarquable. On les accueillit comme des grands brûlés, avec la même attention, la même urgence. On les conduisit rapidement auprès de l'enfant en détresse. À ce moment-là, le personnel impuissant qui voyait dans le couple l'ultime solution décida de les laisser un moment seuls auprès de l'enfant. Chacun ayant bien compris et assimilé que le caractère émotionnel de la situation présidait sur l'aspect physiologique. Une fois isolés dans la chambre, chacun des deux parents prit doucement une main de l'enfant et la caressa avec amour. Flavia fredonna doucement le chant préféré de Tom et Dan s'y associa en produisant, comme à son habitude, un bourdonnement musical avec sa gorge. Le flux d'affection ne tarda pas à faire son effet. Dans les minutes qui suivirent, déjà quelques signes positifs couraient sur les écrans. En silence, Une infirmière entrée discrètement s'appliquait à constater et à noter les sensibles améliorations. À minuit et une minute, comme si le changement de jour devait avec lui apporter un changement radical d'état, la situation évolua brusquement. L'enfant, telle une chrysalide, développa son corps recroquevillé depuis plusieurs heures et s'agita. Il fit des gestes totalement incompréhensibles pour le personnel hospitalier, mais bien connus de son entourage familial. Ses moulinets de bras faisaient partie de sa personnalité, et ils déclenchèrent chez Dan et Flavia un fou rire nerveux et de quoi remplir des seaux de larmes. La joie venait d'entrer dans cette chambre située aux soins intensifs, et le personnel ému s'associa discrètement à la liesse, gardant cependant en mémoire les événements de la journée précédente. La situation était maintenant sans équivoque. Dan, Tom et Flavia, ce corps tricéphale, reprenaient goût à la vie, s'arrachant des méandres ténébreux du coma pour revenir plus fort à la pleine lumière. À peine deux jours plus tard, le lundi matin fut un grand jour. Ils quittèrent l'hôpital sous les applaudissements du personnel ému. Pour eux, Dan, Flavia et Tom s'étaient décidés. Ils s'embarquaient vers un avenir commun. Ils étaient devenus, par la force des émotions, comme les doigts de la main, inséparables.
Better, and I need you. Dis donc, les vacances au soleil, on pourra quand même se les offrir. Dès que j'aurai récupéré les 300 briques de bijoux.
Tu les as?
Ah, bien sûr.
Dis donc, comme Faucheton, tu te poses un peu là.
Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là.
Bah non, mais on va quand même pas se mettre à travailler.
Et on va peut-être pas se mettre à travailler, mais on va peut-être se mettre à lire. La scène a rencontré Paris, Jacques Prévert, qui est là, toujours là dans la ville, et qui pourtant sans cesse arrive. Ce qui pourtant sans cesse s'en va, c'est un fleuve. Répond un enfant, un devineur de devinettes, et puis l'œil brillant, il ajoute, et le fleuve s'appelle la Seine. Quand la ville s'appelle Paris, et la Seine c'est comme une personne, des fois elle court, elle va très vite, elle presse le pas qu'on tombe le soir. Des fois au printemps, elle s'arrête. Si vous regardez comme un miroir, elle pleure. Si vous pleurez, on sourit pour vous consoler, et toujours elle éclate de rire. Quand arrive le soleil d'été, la Seine dit un chat, c'est une chatte, elle rend en me frôlant, ou peut-être que c'est une souris. Oui, une souris qui joue avec moi, puis s'enfuit. La Seine, c'est une belle fille, et dans le temps, une jolie fille du French Cancan, dit un très vieil Old Man River, un gentleman de la misère, et dans l'écume du sillage d'un lui aussi très vieux chaland, il retrouve les galantes images du bon vieux temps, tout froufroutant. La Seine, dit un manœuvre, un homme de peine, de rêve, de muscles et de sueur, la Seine c'est une usine, la Seine c'est le labeur, en amont, en aval, toujours la même manivelle, des fortunes de pinards, de charbon et de blé qui remontent et descendent le fleuve en suivant le cours de la bourse, des fortunes de bouteilles et de verres brisés, des trésors de ferraille rouillés, de vieux liquages abandonnés, la Seine, c'est une usine. Même quand c'est la fraîcheur, c'est toujours le labeur. C'est une chanson qui coule de source. Elle a la voix de la jeunesse, dit une amoureuse en souriant. Une amoureuse de vers galants, une amoureuse de l'île des cygnes, se dit la même chose en rêvant. La Seine, je la connais. Comme si je l'avais faite, dit un pilote de remorqueur au bleu de chauffe tout bariolé de mazout et de soleil et de fumée. Un jour, elle est folle de son corps, elle appelle ça le mascaré. Le lendemain, elle roupille comme un loir et c'est tout comme un parquet bien briqué, scabreuse, dangereuse, tumultueuse et rêveuse, par-dessus le marché. Voilà comment caler malice, caresse, romance, tendresse, caprice, vacherie, paresse. Si ça vous intéresse, c'est son vrai pédigré. La Seine, c'est un fleuve, comme un autre, dit d'une voix désabusée, un monsieur correct et blasé, l'un des tout premiers passagers du grand tout dernier bateau-mouche touristique et pasteurisé. Un fleuve avec des ponts, des docks, des quais, un fleuve avec des remous, des égouts et de temps à autre un noyer. Quand ce n'est pas un chien crevé avec des pêcheurs à la ligne et qui n'attrape rien, jamais, un fleuve comme un autre. Et je suis le premier à le déplorer. Et la Seine qui l'entend sourit et puis s'éloigne en chantonnant. Un fleuve comme un autre, comme un autre, comme un autre. Un cours d'eau comme un autre cours d'eau. D'eau des glaciers et des torrents et des lacs souterrains et des neiges fondues, des nuages disparus. Un fleuve comme un autre, comme la Durance ou l'Amazone ou la Moselle, le Rhin, la Tamise ou le Nil, un fleuve comme le fleuve Amour, comme le fleuve Amour, chante la Seine épanouie, comme le fleuve Amour, chante la Seine épanouie. Et la nuit, la voix lactée l'accompagne de sa tendre rumeur dorée, et aussi la voix ferrée de son doux fracas coustumier. Comme le fleuve Amour, vous l'entendez la belle, vous l'entendez roucouler, dit un grand seigneur des berges, un estivant du quai de la Râpée. Le fleuve Amour, tu parles si je m'en balance, c'est pas un fleuve la Seine, c'est l'amour en personne, c'est ma petite rivière à moi, mon petit point du jour, mon petit tour du monde, les vacances de ma vie, et le Louvre avec les Tuileries, la tour Eiffel, la tour pointue, et Notre-Dame de l'Obélisque, la gare de Lyon ou d'Austerlitz, c'est mes châteaux de la Loire, la Seine, c'est ma riviera, et moi je suis son vrai touriste, et quand elle coule froide et nue, en hurlant plainte contre inconnu, faudrait que j'aie mauvaise mémoire pour l'appeler détresse, misère ou désespoir. Faut tout de même pas confondre les contes de fées et les cauchemars. Aussi, quand dessous le pont neuf, le vent du dernier jour soufflera ma bougie, quand je me retirerai des affaires de la vie, quand je serai définitivement à mon aise, au grand palace des allongés à Bagneux ou Père-Lachaise, je sourirai et me dirai « Il était une fois la scène, il était une fois l'amour, il était une fois le malheur, et une autre fois l'oubli, il était une fois la scène, il était une fois la vie. » Jacques Prévert. La batterie. À les enfants, de la batterie, après l'orage, l'herbe sous le riz, l'amour, de même après la tuerie. Smig, smag, slang, gang, bang. Un se débine de la caisse, un autre arrive et tape dessus, c'est un air de corde de pendu, et puis soudain un air si tendre qu'on dirait que rien s'est perdu. Smig, smag, slang, gang, bang. À les enfants, de la batterie, après l'orage, l'herbe sous le riz. L'herbe, l'amour, de même après la tuerie. Le bouquet. Pour toi, pour moi, loin de moi, près de toi, avec toi, contre moi, chaque battement de mon cœur est une fleur arrosée par ton sang. Chaque battement, c'est le tien, chaque battement, c'est le mien, par tous les temps, tout le temps. La vie est une fleuriste, la mort un jardinier. Mais la fleuriste n'est pas triste, Le jardinier n'est pas méchant. Le bouquet est trop rouge et le sang trop vivant. La fleuriste sourit. Le jardinier attend et dit « Vous avez le temps. Chaque battement de nos cœurs est une fleur arrosée par le sang. Par le tien, par le mien, par le même en même temps. » Rain Song. Rain, 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 il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys et des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chats rouquins. Rain, 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 green, 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 frog, frog, green, it's raining napalm, bomb and bayonet, it's raining blood and death, il flotte, two time, tout le temps, rain, 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 et pluie, et pluie, et puis, et puis, et puis, love, dream, mille et sunshine, the time, en temps. Rain, 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 il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys et des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chats rouquins.
Dis donc, les vacances au soleil, on pourra quand même se les offrir. Dès que j'aurai récupéré les 300 briques de bijoux.
Tu les as?
Bah bien sûr.
Bah dis donc, comme Faucheton, tu te poses un peu là. Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là.
Bah non, mais... on va quand même pas se mettre à travailler.
Ne rêvez pas. L'ordinateur, ne rêvez pas. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne rêvez pas. L'électronique rêvera pour vous. Ne lisez pas. L'électrolyseur lira pour vous. Ne faites pas l'amour. L'électrocoïtal le fera pour vous. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne vous reposez pas. Le travail repose sur vous. Et puis c'est le défilé, c'est l'anniversaire de l'armistice et c'est aussi celui de Charles Baudelaire. Aussi la musique militaire depuis Vincennes jusqu'à la République verse-t-elle l'héroïsme au cœur des citadins. Pour célébrer la paix, on fait fête à la guerre. Précédant les chars de l'État, des gendarmes imberbes déguisés en poilus de 14, en soldats inconnus, en fusillés de 17, les uns rouges jusqu'à la ceinture, les autres bleu horizon de la tête aux pieds, marquent le pas. C'est comme la mi-carême ou le mardi gras d'autrefois, des chars, des travestis, une vraie chienlit, mais les serpentins et les confettis sont interdits. Mai 1968, on ferme, cri du cœur des gardiens du musée Homme usé, cri du cœur à greffier, à rafistoler, cri d'un cœur exténué. On ferme la cinémathèque et la Sorbonne avec, on ferme, on verrouille l'espoir, on cloître les idées, on ferme, ORTF bouclé, vérité séquestrée, jeunesse bâillonnée, on ferme, et si la jeunesse ouvre la bouche, par la force des choses, par les forces de l'ordre, on la lui fait fermer, on ferme. Mais la jeunesse à terre, matraquée, piétinée, gazée et aveuglée, se révèle, se relève pour forcer les grandes portes ouvertes, les portes d'un passé mensonger périmé. On ouvre sur la vie, la solidarité et sur la liberté de la lucidité. Des gens s'indignent que l'Odéon soit occupé alors qu'ils trouvent encore tout naturel qu'un acteur occupe tout seul la tragicomédie française depuis de longues années afin de jouer en matinée, nuits et soirées à des bureaux fermés le rôle de sa vie, l'homme providentiel, héros d'un très vieux drame, du répertoire universel, l'histoire ancienne et c'est pas prêt de changer.
Dis donc, les vacances au soleil, on pourra quand même se les offrir. Dès que j'aurai récupéré les 300 briques de bijoux.
Tu les as?
Bah bien sûr.
Bah dis donc, comme Faucheton, tu te poses un peu là. Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là.
Bah non, mais on va quand même pas se mettre à travailler.
Pensée pour moi-même et quelques autres, par Jean Zéboulon, aux éditions Harpo. Les régimes totalitaires brûlent les livres, la démocratie les noie. La flemme est l'avenir de l'homme. Il dort à point fermé, prêt à en découdre avec tous ceux qui tenteraient de le réveiller. Ne soyez pas si tendu, demain est une autre joue. Il se cache dans la lumière pour mieux se retrouver dans l'obscurité. Et puis, trop distingué pour boire à la bouteille, elle avait pris une paille dans l'œil de son voisin. Oh, seuls les gens ennuyeux savent mettre au pas votre précieux temps. Regardez, regardez bien. Qu'est-ce que vous faites donc là à nous écouter? La réalité est d'un naturel pudique. Il est difficile de la surprendre dans sa nudité. Et quand d'aventure cela arrive, elle démontre toujours aux voyeurs intrépides qu'il convient de ménager les apparences, si tu vois ce que je voulais dire. Connaissance biblique, l'histoire de l'homme et la femme commence par la chute. Dans leur chute, Adam et Ève ne tombèrent pas sans connaissance. Grâce à la pomme, ils venaient de découvrir la loi d'attraction universelle. Leurs yeux s'étaient enfin ouverts, ils purent contempler leur nudité et virent que cela était bon et purent enfin tomber des mois dans les pommes. L'avocat, lorsqu'au terme d'une longue vie de labeur et d'enfantement douloureux, Ève se présenta devant le tribunal céleste, elle exigea d'être défendue par un fruit. Un avocat. Naître sous une bonne étoile. Dieu promit à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. À quelques mois de là, comme par magie, chacun put voir le ventre de sa femme s'arrondir comme un astre. Et il cria « Oh, quel désastre !»
Dis donc, les vacances au soleil, on pourra quand même se les offrir. Dès que j'aurai récupéré les 300 briques de bijoux.
Tu les as?
Bah bien sûr.
Bah dis donc, comme Faucheton, tu te poses un peu là. Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là.
Bah non, mais on va quand même pas se mettre à travailler.
Vous étiez dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez toujours le choix de laisser rentrer la lumière ou garder les volets fermés. Ce soir, vous avez entendu la voix de Claudius nous lire ses propres textes tirés de son recueil Médicaments. Bonsoir Claudius et merci beaucoup à toi.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Merci, je pense que les auditeurs apprécieront cette écriture. Vous avez entendu aussi la voix d'Alain, non pas le philosophe, mais Alain Giustiniani, qui nous a lu des lectures de François Villon, Voltaire, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, André Breton, Paul Éluard. Et vous avez entendu aussi les musiques de Pierre Perret. Merci pour ces lectures et puis ces choix.
Bonsoir à tous et ne lâchez rien.
Ce soir, vous avez entendu aussi les pensées pour moi-même et quelques autres par Jean Zéboulon aux éditions Harpo. Jacques Prévert, évidemment, tiré du recueil Choses et autres. Quel visionnaire ce Prévert. Je vous remercie infiniment de nous écouter, de si bien nous accueillir. Et je vous laisse en compagnie de Ryuichi Sakamoto dans son fabuleux morceau de Merry Christmas, Mr. Lawrence, tiré du film Furio. Prochaine émission dans un mois, même jour, même heure, et vous êtes tous les bienvenus.